الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous allons aborder إن شاء الله l'explication du Cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh sur l'épître Les Trois Fondements, ثلاثة الأصول ou bien الأثور الثلاثة, les deux titres sont justes, de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Mohamed ibn Abd al-Wahhab, je pense qu'il se passe de présentation, tout le monde le connaît, et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je les invite à consulter une brève biographie de sa personne qui se trouve très facilement sur Internet, que ce soit en audio ou à l'écrit. Par contre, Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, est beaucoup moins connu. La plupart d'entre vous ne le connaissent peut-être même pas. Alors que c'était un illustre savant. C'était à la base et comme meilleur titre qu'on pourrait lui donner, c'était que c'était le cheikh de nos chouyours. Et notamment le principal cheikh de Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Donc en guise de très brève description ou biographie de ce cheikh dont nous allons faire la modeste traduction, voire annotation lorsque le besoin s'en fera sentir de ce cheikh, nous pouvons dire que Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, premièrement, pourquoi est-ce qu'il s'appelle al-Sheikh? Pourquoi le mufti actuel s'appelle Abdul Aziz al-Sheikh? Pourquoi le grand savant Salih al-Sheikh s'appelle al-Sheikh? Al-Sheikh, ça veut dire la famille du cheikh. Al, c'est comme Alul Bayt, la famille de la maison prophétique, c'est-à-dire la famille du prophète. Al-Sheikh, c'est-à-dire la famille du Sheikh. De quel Sheikh on parle? Eh bien justement, on parle du Sheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Donc lorsque vous entendez un tel Al-Sheikh, ça veut dire qu'il est de la lignée, il est de la descendance de Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Et quelle noble descendance, une descendance de savants et d'érudits. Et entre eux, Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, qui est l'auteur du charh que nous allons traduire, incha'Allah. Et Mohamed ibn Abdel Wahhab, il y a quatre ancêtres qui les séparent. Donc c'était l'arrière petit-fils de Mohamed ibn Abdel Wahhab. Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahmatullahi alayhi, il est né en 1311. À Riyad, en Arabie Saoudite, 1311 de l'Hégire, bien évidemment. Son propre père, Mohamed ibn Ibrahim, était lui-même un grand érudit. C'était le juge suprême à Riyad. A noter que son père, Mohamed ibn Ibrahim, son père est mort alors que Mohamed ibn Ibrahim n'avait que 18 ans. Mohamed ibn Ibrahim était pourvu, comme tout savant, de spécificités, de caractéristiques qui le distinguaient de ses camarades de classe et qui font qu'un tel est un grand savant et un tel est un savant. Il était connu pour avoir une mémorisation incroyable. Il lisait un matn, une épître, trois fois et il la mémorisait. À la troisième lecture, parfois on rapporte qu'à la deuxième lecture d'une épître, il l'avait mémorisé, rahmatullahi alayhi. Mohamed ibn Ibrahim, il a été, bien avant Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, le président, le directeur de la Jami'a, de l'université de Médine, l'université tant connue de Médine. Il en a pris la présidence en 1381 de l'Hégire. Parmi les plus illustres élèves de Mohamed ibn Ibrahim, on cite toujours en premier Ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. Mohamed ibn Ibrahim était le mufti d'Arabie Saoudite. Ensuite, à sa mort, c'est Ibn Baz qui a pris la présidence de Al-Ifta et qui est devenu le mufti d'Arabie Saoudite. Et à la mort d'Ibn Baz, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, c'est actuellement le mufti Abdul Aziz al-Sheikh, un parent de Mohamed ibn Ibrahim. Parmi les illustres élèves de Mohamed ibn Ibrahim, on peut citer aussi Abdurrahman ibn Mohamed ibn Qasim, un savant que très peu de monde connaissent très peu de monde connaît, alors qu'il est très respectable, très émérite. Lui-même a écrit une magnifique explication de Sharh Thalathat al-Usul. Il a écrit une hachia exceptionnelle sur Ar-Rawd al-Murbi', qui est lui-même l'explication de Zad al-Mustaqni' dans le Fiqh Hanbali. Grand savant, qui lui-même a eu un enfant, ce Abdurrahman ibn Muhammad, qu'il a appelé Muhammad. Donc, son enfant, c'était Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim. Et ce Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim, on va en parler plus tard, c'est celui qui a rédigé de sa main les explications de Sheikh Muhammad ibn Ibrahim sur tous les livres qui sont connus de lui. Et c'est lui qui a compilé d'ailleurs les fatawi, l'ensemble des fatwas de Muhammad ibn Ibrahim. Et c'est lui qui a aidé son père, dont on vient d'évoquer le nom, Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman ibn Qasim. Père et fils se sont mutuellement aidés pour sortir et compiler les fameuses fatwas de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Et oui, le fameux Majmou' al-Fatawa qui s'arrache partout, qui est plébiscité partout, ce sont eux deux, Abdurrahman et Muhammad ibn Qasim, qui ont compilé les fatwas de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Parmi donc, le père et le fils étaient les élèves de Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, le grand mufti d'Arabie Saoudite passé. Rahmatullahi alayhi. Parmi ses élèves, on trouve aussi Sheikh Rudayan, rahmatullahi alayhi. A savoir que comme Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, était aveugle. Il est mort le 14 septembre, ou le 14 plutôt du 9e mois hégirien, de l'année 1389, alors qu'il avait 78 ans. Qui est donc ça c'est une brève biographie de Muhammad ibn Ibrahim. Qui est-ce qui a compilé de sa propre main, qui a noté de la bouche du Shir l'explication à laquelle nous allons nous atteler? C'est Muhammad, fils de Abdurrahman, fils de Muhammad, fils de Qasim. On a dit qu'Abdurrahman ibn Qasim était un grand savant, on l'a vu, on a cité quelques-uns de ses ouvrages. Et Abdurrahman ibn Qasim, il a dit à son fils, alors qu'il n'avait, je crois, que 6 ans, 7 ans, il l'a retiré des kuttab, ses petites madaris, ses petites écoles pour enfants où on apprend à lire et écrire. Il lui a dit, maintenant, je veux que tu deviennes un alim, je veux que tu deviennes un savant. Et de l'âge de ses 12 ans, Muhammad ibn Qasim, qui a retranscrit ce charh, cette explication de Thalathat al-Usul, depuis l'âge de ses 12 ans jusqu'à la mort du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'azamahu. Il ne l'a pas lâché. Il prenait toute sa science. Et c'est justement ce Mohammed ibn Qasim qui a rédigé tous les épîtres, toutes les explications de Mohammed ibn Ibrahim dans la Aqidah et qui a compilé ses fatawas. Ce Mohammed ibn Qasim lui-même, en tant que grand savant, avait ses particularités propres. C'est qu'il avait une vitesse d'écriture incroyable. Il était capable d'écrire tout le cours de Muhammad ibn Ibrahim sans en omettre un seul mot. Il nous disait qu'il était capable d'écrire aussi rapidement que le shir parlait. Et c'est pour ça que Muhammad ibn Ibrahim et Muhammad ibn Qasim, ibn Abdurrahman ibn Qasim, disaient « Je n'ai rien omis des paroles de Sheikh Muhammad al-Sheikh ». Muhammad ibn Qasim était lui-même connu pour être capable de mémoriser un matn, un épître, dès la première lecture. Donc non seulement il avait une vitesse d'écriture prodigieuse, mais en plus il avait une mémoire extraordinaire. Muhammad ibn Qasim, rahmatullahi alayhi, enfin je ne sais pas s'il est mort, son père est mort, mais lui je ne sais pas, il nous dit qu'il était, lorsqu'il a intégré les instituts et les facultés, toujours premier de la classe avec Ibn Jibrin. C'était les deux rivaux qui finissaient toujours premier de la promotion. Il est rapporté de Muhammad ibn Qasim que lorsqu'il n'avait plus de papier, plus de feuilles pour continuer à écrire la suite du cours de Cheikh Muhammad ibn Ibrahim, il continue à écrire sur sa main, voire sur son bras, pour ne rien perdre des explications du Shir. Donc voilà une brève biographie de l'auteur de ce charh que nous allons voir, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ainsi que de son compilateur, Muhammad ibn Qasim. Brève explication, bien brève biographie de Thalathat al-Usul. Thalathat al-Usul, c'est l'un des tout premiers épîtres de base dans la Aqidah, la science de la croyance, le dogme. Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, lorsqu'on lui a dit par quoi est-ce qu'on commence l'étude de la Aqidah, il a dit par Thalathat al-Usul. Et c'est ce que de nombreux chouyours contemporains recommandent. Commencez par Thalathat al-Usul. Moi, personnellement, je vous avais déjà raconté cette anecdote. C'est que c'est le premier livre salafi que j'ai lu parce que j'étais anti-wahhabite. Et donc, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans les livres wahhabites au sujet desquels on me faisait fuir et on me mettait en garde. Donc, c'est le premier livre salafi que j'ai lu. Premier livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que j'ai lu. Premier livre de Cheikh Ibn Uthaymin que j'ai lu parce que je l'ai lu avec l'explication d'Ibn Uthaymin. Et c'est le premier livre qui a bouleversé ma vie. Après le Coran, bien entendu, et après Riyadu Salihin. Premier livre qui a changé ma vie et qui m'a fait passer de l'Ash'ariya à As-Salafiyya walhamdulillahi rabbil alamin. Pourquoi il m'a bouleversé? Parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on raconte sur les salafis, sur Mohammed ibn Abdel Wahhab, etc., ce n'était que chimère, invention, calomnie, mensonge, médisance, etc., etc. Et que son livre, ce n'était que « Qala Allah, qala Rasulullah, hakad dalil ». Allah a dit, le messager d'Allah a dit « Tiens le dalil ». Et ma preuve, lorsque je dis ceci, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Et vous allez le constater de vous-même. Le livre, ce n'est que ça. Donc, le Cheikh, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, commence en disant « I'lam ». Ce n'est pas anodin si Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab commence son épître « Thalathat al-Usul » avec sa parole « I'lam ». Sache! Bien évidemment, il a commencé par « Bismillahirrahmanirrahim ». Comme nous le rappelle Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il nous dit « Amalan bil hadith ». Il a œuvré selon le hadith « Kullu amrin dhi balin, yani dhi halin wa sha'nin yuhdammu bihi shar'an, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayatin ajdham wa fi riwayatin abtar wal ma'na min jami'i riwayat naqisul baraka. » Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a commencé sa risala par ce qu'on appelle al-basmala. C'est le fait de dire « Bismillahirrahmanirrahim ». Il nous dit ceci pour suivre l'injonction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith que toute affaire importante par laquelle on ne commence pas ou par laquelle on ne la débute pas par « Bismillahirrahmanirrahim », alors cette affaire, elle est « aqta' ». Et dans une version « ajdham » et dans une version « abtar ». Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit « Tous ces synonymes veulent dire « naqisul baraka », c'est-à-dire que la bénédiction va lui manquer. Elle va être déficiente en bénédiction si tu ne commences pas par la basmala. Puis le shir a dit « i'lam »,« sache ». Mohammed ibn Ibrahim nous dit « kalimatun yu'ta biha inda dhikri shay alladhi lahu ahammiya wa yusra ilayhi ». Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas m'atteler à lire tous les propos de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, parce que son charh fait une 350aine de pages, vous imaginez? Ce n'est pas du tout le charh, l'explication la plus courte de Thalathat al-Usul. J'aurais pu vous faire une explication très courte qui existe de Thalathat al-Usul, mais j'ai tenu à faire celle de Mohammed ibn Ibrahim. Pourquoi? J'ai oublié de le dire en introduction, parce que, et c'est cocasse. C'est que figurez-vous que depuis l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab jusqu'à l'époque de Mohammed ibn Ibrahim, où on a dit que pourtant 4 générations les séparent, il y a 4 ancêtres entre Mohammed ibn Ibrahim et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Malgré ce fossé générationnel, personne n'avait encore entrepris d'écrire un charh de Thalathat al-Usul. Du coup, le premier charh, la première explication écrite qui nous est parvenue de Thalathat al-Usul, c'est celle de Mohammed ibn Ibrahim, subhanallah. Et en plus, il s'avère que c'est l'une des plus conséquentes et l'une des meilleures. Et qui de mieux que l'héritier lui-même du Shir pour expliquer les paroles de son ancêtre? Donc voilà pourquoi j'ai tenu à me baser sur son explication à lui, non pas sur l'explication de Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen ou d'Ibn Baz ou d'un autre. Et donc ce que je dis, c'est que comme c'est une grosse explication, 350 pages, et que j'aimerais que les cours soient succincts et concis, on ne va pas lire tous les propos, mais on va lire l'essentiel, ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a dit I'lam, c'est un mot que le cheikh a employé pour attirer l'attention sur l'importance de ce qui va suivre. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit Rahimakallah, I'lam, Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, sache, Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'il, qu'il est obligatoire, qu'il nous incombe, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses, quatre questions, quatre sujets. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente et nous dit Annahu yajibu alayna ala kulli fardin mukallafin min dhakarin ou untha, hurrin ou abdin. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit qu'il nous incombe, qu'il nous est obligatoire, c'est-à-dire à tout un chacun, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit libre ou esclave. والواجب ما لا يعذر أحد بتركه وهو عند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que al-wajib, l'obligation, qu'est-ce qui est voulu par l'obligation? Il nous dit, c'est ce dont personne n'est excusé d'avoir délaissé. Si tu délaisses cette chose, tu n'es pas excusé, ça veut dire que cette chose était obligatoire. Si tu délaisses cette chose et que tu es excusé, ça veut dire que cette chose n'était pas obligatoire. Et il nous dit, et le sens, la définition d'al-wajib chez les gens d'al-usul, les gens des fondements du fiqh, c'est que celui qui va faire ce wajib, il va être récompensé, et celui qui va le délaisser, il va être puni. Donc à partir du moment où tu vas être puni, châtié, bien sûr, sous la volonté d'Allah. Si Allah veut te faire miséricorde, il te fera miséricorde. Mais s'il veut par justice te punir parce que tu as délaissé cette chose, sache que s'il te punit pour le délaissement de cette chose, c'est parce que cette chose était obligatoire. C'était pas quelque chose de facultatif, surérogatoire, méritoire. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, nous dit donc Ta'allumi arba'i masa'il. Donc, Mohammed ibn Ibrahim nous dit la connaissance, l'apprentissage de ces quatre choses. Elle incombe à kullu fardin min al-mukallafin. Yajibu alayhi al-ilmu bi hadhihi al-arba'. Il convient à tout mukallaf. Qui est le mukallaf? On l'a déjà étudié dans des cours précédents, notamment des cours de fiqh. On a dit que le mukallaf, c'est al-aqilu al-baligh al-muslim. Premièrement, c'est al-muslim, le musulman. Deuxième condition pour qu'il soit mukallaf, c'est-à-dire qu'il soit chargé d'obtempérer au message qui lui est lancé, en l'occurrence ici, les propos du Shir, par exemple, il nous dit le mukallaf, donc c'est al-muslim. Nous vous disons le mukallaf, c'est al-muslim, le musulman. Al-baligh, il doit être pubère. S'il n'est pas pubère, il n'est pas mukallaf. Comme l'a dit le messager d'Allah, rufi'at al-aqlam an as-sabi hatta yablugh. La plume du destin, la plume des scribes, est levé sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Les scribes n'écrivent pas ses mauvaises actions. On ne considère pas qu'il a des mauvaises actions car il n'est pas encore pubère. Donc il n'est pas mukallaf, il n'est pas chargé d'obtempérer à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux pubères, aux adultes responsables. Et enfin, al-aql, il doit être sain d'esprit. Le fou, comme l'a dit le messager d'Allah, wa anil majnun hatta yufiq. Et la plume est aussi levée sur le fou jusqu'à ce qu'il se réveille de sa folie, qu'il recouvre l'esprit. Donc voilà qui est al-mukallaf. Si tu es musulman, que tu es pubère et que tu es saint d'esprit, tu es concerné, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, par ces quatre choses qu'il est obligatoire d'apprendre. On a dit aux hommes comme aux femmes. Il nous dit, هذه الأربع واجب علينا تعلمها. فإذا تعلمناها تفضل الله علينا بحصول الثواب وإذا تركنا تعلم هذه الأمور أثمنا. Il nous dit, si on apprend ces quatre choses-là, Allah Azza wa Jal va déverser de ses faveurs sur nous. Mais si on délaisse l'apprentissage de ces quatre choses-là, nous serons fautifs, nous serons pécheurs. Donc, ce n'est pas des choses, ces quatre choses que nous allons voir, apprendre à la légère. Ce sont des choses qu'il est indispensable de connaître et d'apprendre. Al-Oula, quelle est la première chose ? Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab nous dit Al-Oula, la première de ces choses, de ces quatre choses qu'il convient d'apprendre, c'est Al-Ilm. Et c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas anecdotique s'il a commencé son épître en disant I'lam, sache. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'il convient qu'on apprenne et qu'on sache, c'est Al-Ilm. Et on va voir, bien sûr, là on lit morceau par morceau. Ensuite, vous allez voir que tous les éléments de la phrase vont s'imbriquer les uns dans les autres dans votre esprit, Inch'Allah. Donc le Cheikh nous dit la première des choses importantes à connaître, c'est Al-Ilm, la science. Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab nous dit que Al-Ilm, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit que Al-Ilm qismane. Fardu ayn wa fardu kifaya. Wa Al-Ilm al-shar'i ala qismayni fardu ayn wa fardu kifaya. La science, elle est de deux types. Il y a une science qui est obligatoire d'être sue par tout un chacun. Et il y a une science qui est obligatoire d'être reçu à seulement une partie de la communauté. C'est ce qu'on appelle al-fardu ala al-kifaya. C'est-à-dire, ala al-kifaya, il suffit à une partie de la communauté d'avoir appris et su cette science pour que le reste de la communauté en soit dispensé. Il nous dit, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, « وَجِنْسُ فَرْضِ الْعَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْكِفَيَا وَالِشْتِغَالُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ » La science que tout un chacun doit connaître, qu'on appelle al-fardu al-ayn. C'est obligatoire à tout le monde de le connaître. Contrairement au fardu kifaya, qui n'est pas obligatoire à tout le monde d'être reçu et connu. Mais il suffit qu'une partie de la umma s'en charge pour que l'autre partie soit déresponsabilisée. Il nous dit al-fardu al-ayn, l'obligation individuelle, qu'il est obligatoire à tout le monde de connaître, elle est meilleure que l'individuation, que l'obligation collective. Et il nous dit le fait de s'occuper de ce fard al-ayn, le fait de s'occuper de cette obligation individuelle, c'est meilleur que nawafilul ibadat, que les actes d'adoration surérogatoires. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des propos de Cheikh Mohamed ibn Ibrahim ? Il nous dit, Mohamed ibn Ibrahim, qu'en fait, le fait de connaître et d'apprendre cet épître, Thalathat al-Usul, tout ce qu'on va voir dedans, tout ce qu'on va voir, ces quatre choses qu'il est obligatoire à tout le monde de connaître, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit, il est plus important et meilleur de s'atteler à connaître et à apprendre ces choses-là plutôt que de faire des nawafil. Des actes d'adoration surrogatoires comme la prière de nuit, comme Salat al-Duha, comme les Rawatib, les Rak'a qu'on fait avant ou après certaines prières, comme le jeûne surrogatoire, comme le pèlerinage surrogatoire. Pourquoi c'est meilleur ? Bien, il nous dit, parce que ce qui est obligatoire, dont la connaissance de ces quatre choses-là, ce qui est obligatoire est forcément meilleur que ce qui est facultatif surrogatoire. D'ailleurs, dans un hadith, que certains d'entre vous connaissent puisqu'il se trouve dans Al-Arba'in al-Nawawiyah, le messager d'Allah dans un hadith qui est divin, Qudsi, où Allah nous dit « Ma taqarraba ilayya abdi bishayn ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi » Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée, qui m'est préférable que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire que ce que je lui ai rendu obligatoire. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ Et ensuite, mon Seigneur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, al-nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Mais la première des choses qu'Allah nous a dit, c'est tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah par une œuvre qui lui est préférable, qui lui est plus aimée, qui est plus aimée auprès de lui, que ce qu'il t'a prescrit, ce qu'il t'a rendu obligatoire. Et Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab nous dit, ces quatre choses que nous allons étudier, elles sont obligatoires. Pour tout le monde, fardu ayn, c'est une obligation individuelle, pas collective. Nassa Ahmed, ala annahu yajibu أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك ونحو ذلك. Mohamed ibn Ibrahim nous dit que l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi a dit « Il est obligatoire de chercher la science à quel sujet ?» On doit chercher la science de quoi ? La science de l'héritage aussi ? On doit apprendre les règles de l'héritage ? Tout le monde doit les apprendre les règles de l'héritage, etc. etc. Non ! L'imam Ahmed, il a été questionné, il a dit « Il est obligatoire de chercher la science au sujet de ce sur quoi repose ta religion. » Pour que ta religion soit viable, il y a certaines choses que tu dois obligatoirement apprendre. Tu dois chercher la science à ce sujet. On lui a dit, mais quelles sont ces choses, ô Imam Ahmed ? C'est quoi ces choses sur lesquelles repose la religion ? L'Imam Ahmed a dit, c'est ce qu'il ne t'est pas possible et permis d'ignorer. Comme la prière, le jeûne, et ce qui est semblable à cela. La prière, tu en as besoin tous les jours. Le jeûne, tu en as besoin au moins une fois par an. Le hajj, tu en as besoin au moins une fois dans ta vie. Donc, tu as besoin d'apprendre ces choses-là, puisque c'est une obligation pour toi de les mettre en pratique. La zakat, peut-être que dans toute ta vie, tu ne seras jamais soumis à la zakat. Et donc, que tu ne seras jamais éligible à la zakat, ou plutôt que tu ne seras jamais, oui, soumis à la zakat. Donc, tu n'es pas forcément obligé de l'apprendre tout de suite, même si ça fait partie des piliers de l'islam, et qu'on recommande d'apprendre ce pilier-là au cas où un jour tu vas être soumis à la zakat, tu peux avoir un héritage, etc., etc., etc. L'imam Mohamed ibn Ibrahim nous dit « فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنسَانِ الْعَمَلُ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِهِ » Ce qu'il est obligatoire à l'homme de mettre en pratique de vrai, alors a fortiori, il lui est obligatoire de le connaître, d'aller chercher la science sur cette chose qu'il est obligé de mettre en pratique. Il nous dit « بخلاف فروض الكفاية » contrairement aux obligations collectives. « مثلuma » comme quoi ?« Comme تعلمي الفرائض » comme l'apprentissage des فرائض. Alors là, attention mes frères, mes sœurs, il y a de nombreuses personnes, et notamment des traducteurs, parce que n'est pas traducteur qui veut. Hein, on a certains frères qui veulent bien faire, qui ont appris la langue arabe, alhamdoulilah. Ils sont compétents, ils font du bon boulot, mais comme ils n'ont pas appris les sciences religieuses, ils ne se sont pas assis devant les chouyours, ils n'ont pas appris le fiqh, ils peuvent traduire littérairement, c'est-à-dire littéralement un mot, alors que ce mot, en réalité, il avait une toute autre définition. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez certains traducteurs qui ne sont pas des tulab ilm, qui traduisent al-faraid par les obligations, alors que ce qui est voulu ici et dans d'autres passages, c'est les règles de l'héritage. Al-faraid, c'est les parts réservées à chacun. La mère, elle a as-sudus, le père, il a as-thuluth, le tiers, etc. Un tel, il attend, un tel, il attend. Donc ce qui est voulu ici, dans ta'allumul faraid, c'est l'apprentissage des règles de l'héritage. Est-ce que apprendre les règles de l'héritage, ça incombe à tout un chacun ? Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit non, ça n'incombe pas à tout un chacun. C'est un fardou kifaya qui est obligatoire seulement de manière collective. Si une partie de la communauté, comme nos chouyours, comme nos savants, comme nos juges islamiques se chargent d'apprendre ça, on est dispensé, nous, de l'apprendre à notre échelle. Et lorsqu'on a besoin de cette science, eh ben on va les voir. On va voir un cheikh, on va voir un juge et on lui dit « Voilà, ma mère est morte, elle a laissé un papa, elle a laissé un frère, elle a laissé des enfants. Quelles sont les parts de tout un chacun ?» Donc Mohamed ibn Ibrahim nous disait que ce qui est obligatoire à tout un chacun d'œuvrer, comme la prière, comme le jeûne et comme bien évidemment à tawhid, qui est une obligation qui incombe à tout un chacun de connaître le tawhid, de connaître comme on va le voir Allah, le messager d'Allah et la religion d'Allah à l'islam, eh bien, comme il est obligatoire à tout un chacun d'œuvrer selon le tawhid, il est obligatoire en amont d'apprendre ce qu'est justement ce tawhid, d'apprendre qui est Allah, d'apprendre qui est le messager d'Allah, d'apprendre ce que c'est que l'islam. Donc, Mohamed ibn Abdel Wahhab nous disait « Al-Oula ». La première des choses qu'il est obligatoire d'apprendre, c'est « Al-Ilm », la science. Et il nous dit « Wahoua ». Il te donne la définition de la science. C'est pour ça que je vous ai dit, on lit morceau par morceau. C'est compliqué au début de prendre juste un morceau et de l'expliquer, mais ainsi a opéré Mohammed ibn Ibrahim. Donc je ne vais pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire plus vite que le cheikh lui-même, mais vous allez voir qu'ensuite les morceaux s'imbriquent les uns dans les autres. Donc, al-ilm, c'est obligatoire, d'accord, d'apprendre cette chose-là. Qu'est-ce que la science? Eh bien, là, nous apporte la réponse Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et nous, il nous dit, al-ilm, huwa, la science, c'est ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi. La science, c'est la connaissance d'Allah, c'est la connaissance de son prophète et c'est la connaissance de l'islam selon les preuves. Et on s'arrête là, Inch'Allah, car j'ai décidé que, Inch'Allah, on allait faire uniquement des petits cours, un quart d'heure, une demi-heure, pour que ce soit beaucoup plus accessible au commun des gens qui n'ont pas la patience de suivre des gros cours d'une heure. Et Inch'Allah, j'espère que par ce mode opératoire, ce sera bénéfique pour la majorité d'entre nous. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.